Espace femme.
Messieurs, dames, vous nous suivez en direct sur le studio Kalangou. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda. Il est 18h15 au Niger. Bonsoir à tous. Comme tous les mardis, vous êtes à Espace Femmes, un rendez-vous réservé aux thématiques destinées d'abord aux femmes, mais qui concernent tout le monde. Bienvenue, amis auditeurs et auditrices des radios partenaires du studio Kalangou. Espace Femmes traitera ce soir de l'avortement au Niger, conséquences sur la santé de la mère. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que dans le monde, 20 millions d'avortements à risque sont pratiqués chaque année, entraînant plus de 80 000 décès. Selon la même source, en 2016, on a estimé que le monde annuel d'avortement augmente d'environ 6 millions et que sur 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans, 35 ont eu recours à l'avortement. Quelles sont les différentes sortes d'avortements? Dans quel cas l'avortement est pratiqué? L'avortement clandestin est-il pratiqué au Niger? Quelles sont les conséquences sur la santé de la mère? Dans la première partie, nous tenterons de situer le cadre législatif de l'avortement au Niger pour savoir quand est-ce que cette interruption de grossesse est permise. Ensuite, nous aborderons dans la deuxième partie les conséquences sur la santé de la mère. Pour terminer, nous chercherons à savoir s'il existe des moyens ou méthodes pour combattre l'avortement clandestin. Ils seront avec moi, ou je veux dire, elle sera avec moi parce qu'elle est seule au studio ici avec moi, Adama Tini, de l'ONG Maristops, une ONG internationale œuvrant dans la planification familiale, présente à Niamey, Maradi, Tawa et Tillabéri. Et nous avons en ligne avec nous Dr Moussa Zangawo de l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH. Il est socio-anthropologue. Alors, il est bien sûr avec moi, je veux me rassurer. Bonjour docteur.
Oui, bonjour madame, je suis bien sûr en ligne.
Alors donc ça fait plaisir, nous aurons bien sûr une intervention que vous écouterez au fur et à mesure. C'est celle de Dr Idrissa Adamou, gynécologue à la maternité Isaka Gazobi, qui nous a accordé une interview. Alors, la majorité des avortements seraient pratiqués dans les pays à faible revenu. Selon l'OMS, décès liés aux avortements surviennent et contribuent de manière significative à la mortalité maternelle, en particulier en Afrique subsaharienne. La toute première question, elle peut être basique pour certains, mais il est nécessaire de revenir sur cette définition. Pour cela, nous allons tout de suite écouter Dr Idrissa Amadou. Je le disais, il est gynécologue à la maternité Isaka Gazobi.
L'avortement, c'est l'expression d'un produit de conception avant que l'enfant, le fœtus, ne soit viable. C'est-à-dire avant l'âge de la grossesse qui permet à l'enfant de survivre après son accouchement. Donc avant l'accouchement, quand il y a expression du produit de conception, c'est ça qu'on appelle l'avortement.
Alors, à partir de combien de jours, de combien de semaines ou de mois peut-on dire que le fœtus est formé ou viable?
Théoriquement, donc, il faut dire qu'il y a deux choses. Il y a des pays, ce qu'on appelle en voie de développement, où les moyens médicaux sont limités. Et des pays développés ou industrialisés qui ont des moyens élargis, en tout cas plus que dans les pays du tiers-monde. Dans nos pays du tiers-monde, en tout cas, l'âge viable d'un fœtus à partir de 6 mois. En tout cas, dans les pays où ils ont des moyens, ils peuvent élever un enfant qui a un âge d'environ 22 semaines, c'est-à-dire 4 mois et demi. Parce qu'ils ont des machines, ils ont les moyens médicaux plus développés que nous. Médicalement, aujourd'hui, l'âge viable d'un fœtus, on peut le considérer comme à partir de 22 semaines d'aménorrhée.
Alors, docteur, combien de types d'avortements on peut avoir?
Il y a ce qu'on appelle dans nos jargons médicaux des avortements précoces et des avortements tardifs. Les avortements précoces, c'est avant 12 semaines, la 12e semaine d'aménorrhée. Donc à partir de 16 semaines d'aménorrhée jusqu'à 20 semaines, on les appelle des avortements tardifs, c'est-à-dire où l'enfant, le fœtus a commencé à se former, les différentes parties d'organes sont formées. Alors qu'avant 12 semaines, c'est en fait un embryon. C'est juste le produit de conception, il n'est pas assez bien développé. Pour revenir sur les avortements, les différents types, il y a ce qu'on appelle les avortements spontanés, naturels, qui viennent d'eux-mêmes. Et les avortements provoqués, ou qu'on appelle criminels, ou clandestins. Donc ce sont ces avortements, disons, qui sont liés à des grossesses indésirées, non désirées, où la victime se retranche dans un, disons, dans une personne non mandatée.
Vous venez d'écouter donc Dr Idrissa Amadou, gynécologue à la maternité Isaka Gazobi, Dama Tini de l'ONG Marie Stop. Alors, au niveau de cette ONG, est-ce qu'on peut dire que vous, en tant que responsable, vous êtes aussi médecin, gynécologue aussi, voilà. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les différents types d'avortements qu'on vient de citer?
Il y a des avortements que parfois une association de médecins peuvent décider de provoquer pour des raisons bien spécifiques. Donc des grossesses qui mettent en danger la vie de la mère, ou bien pour des enfants qui ne sont pas du tout viables après la naissance.
Alors docteur, je dis docteur Adama Tini, cela sous-entend que l'avortement au Niger est carrément interdit.
L'avortement est carrément interdit. Donc l'avortement n'est pas un moyen de contraception ici au Niger. Les quelques avortements qui sont autorisés, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des avortements qu'on appelle thérapeutiques. Par exemple, moi je suis gynécologue, mais moi en tant que gynécologue, je ne peux pas décider de dire que cette grossesse, elle met en danger la vie de la mère. Ou bien si je le constate, je dois la référer chez nos professeurs qui vont décider, vont après réexaminer la patiente, voir si vraiment cette grossesse met en danger la vie de la mère ou bien l'enfant en même temps n'est pas viable, et ils vont se réunir pour décider si cette grossesse doit être arrêtée ou pas.
Alors c'est une longue procédure.
Oui, exactement.
Nous allons revenir sur cette procédure à Adama Atini de l'ONG Marie Stops. Nous sommes avec Dr Moussa Zangao. Je rappelle qu'il est socio-anthropologue. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au Niger, l'avortement est beaucoup pratiqué par les femmes?
Merci, madame, de m'avoir associé à cette émission, même si je ne suis pas un spécialiste de la thématique du jour. La question de l'avortement au Niger fait partie quand même des questions qui sont rarement abordées dans les milieux dits officiels, dans les milieux formels. Mais c'est quand même une réalité aussi qui existe. Pourquoi cette question n'est pas suffisamment abordée là où elle doit être abordée pour qu'elle soit une solution à certaines préoccupations dont les femmes, et surtout les jeunes femmes, sont confrontées dans leur milieu? Ça nous renvoie à l'importance du milieu socio-culturel, où vous avez des aspects qui sont tabous, parce que tout ça renvoie à la problématique du mariage. Les mariages, et à travers cette thématique, vous avez des aspects relatifs au mariage précoce, au mariage forcé, et sans compter certains éléments qui sont aussi liés à cette problématique qui porte sur les mariages, la question du divorce aussi. Tous ces aspects peuvent conduire à des préoccupations qui renvoient à la question de l'avortement. Et dans notre société, l'avortement clandestin, l'avortement illégal, parce que ce n'est pas autorisé, ça a été évoqué, ceci est une réalité, mais ces questions sont faiblement abordées en public. Donc, vous voyez la complexité de la situation, et quand vous parlez de la santé de la mère, eh bien, cela met en danger la vie de plusieurs jeunes mères qui, pour la plupart, sont dans leur première expérience de maternité.
Alors, docteur Moussa Zangao, est-ce qu'on peut dire que donc le fait que c'est un sujet tabou et compte beaucoup dans le fait que des avortements donc clandestins se font?
Il est possible d'aller dans le sens de l'affirmative, parce que pour réellement affirmer, il faut faire un travail de terrain, disposer de données de terrain, mais nous savons que les avortements clandestins, les avortements, c'est encore des questions de pauvreté, des questions taboues parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas dans une union normale, légalisée, et qu'on veut pas qu'on découvre qu'elle a un enfant à la maison, et même au niveau de la maison, au niveau de sa communauté, donc au niveau de sa famille, ce n'est pas toléré qu'on dise que la fille de tel est mère d'un enfant qui est mis hors mariage à soi. Donc, je crois que tous ces aspects participent à la manifestation du phénomène pour lequel nous n'avons pas de solution véritablement.
Alors,
la première loi.
Allez-y.
Je voulais parler de la loi sur la santé de la reproduction de juin 2006. Je me rappelle, à l'époque, j'étais parlementaire. Je coordonnais les activités d'un réseau parlementaire sur les questions de population.
Alors, docteur, vous anticipez sur ma question. Donc, mais bon, on va vous laisser continuer parce que ça nous permettra aussi d'aller un peu plus vite. Donc, allez-y.
J'ai rappelé juste...
cette loi
de la santé de la reproduction. Dans cette loi, effectivement, il y a eu un débat vraiment sur la question de l'avortement. Et comme la collègue gynécologue de l'ONG qui est en face de vous l'a souligné, effectivement, il est hors de question de permettre, sauf dans des conditions difficiles, dans des conditions exceptionnelles. Là, on parle d'un groupe de médecins, ce n'est pas un seul médecin qui va autoriser. Hein.
Et ça, docteur, permettez-moi, docteur, de rappeler que ce sont les articles 295, 296 et 297 du Code pénal applicable au Niger qui interdisent l'avortement. Vous pouvez poursuivre, docteur.
Merci. Donc, c'est pour renforcer. C'était l'esprit de cette loi, en réalité, de 2006, que le pouvoir de l'époque n'a pas voulu vite accepter, parce qu'il a fallu aussi la pression de certains parlementaires pour qu'elle soit adoptée. C'est juste pour dire qu'il y a des résistances. Et les résistances, elles sont à la fois du côté des familles, elles sont à la fois du côté des gouvernants, mais aussi surtout du milieu des conservateurs, généralement constitués des religieux. Des religieux, entendu, pas seulement du côté de la religion musulmane, mais aussi du côté du milieu chrétien. Et ça a été malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou non, mais c'est qu'ici, dans la plupart des pays, même dans des pays développés, cette situation a été observée de résistance.
Dans ce débat, nous parlons de l'avortement au Niger, donc les conséquences sur la santé de la mère. Donc, il y a l'esprit que nous aurons à la fin de ces débats à proposer des solutions pour, en ce qui concerne l'avortement clandestin. Voilà. Parce que nous sommes en train de développer l'avortement clandestin parce que l'avortement au Niger est interdit, on le sait tous. Et donc, les raisons qui poussent des femmes à avorter, aller vers la clandestinité pour pouvoir se faire avorter. Je me tourne vers Adama Tini de l'ONG Marie Stopes. Docteur Moussa Zangao a souligné tout à l'heure dans son intervention cette loi sur la santé de la reproduction. C'est effectivement la question suivante que j'allais vous poser. L'avortement est interdit au Niger, mais il y a aussi cette loi sur la santé de la reproduction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette loi?
Docteur Moussa a parlé de la loi en 2006, qui a été révisée d'ailleurs tout récemment.
Alors, qu'est-ce qui est très important dans cette loi, je veux dire?
Ce qui est très important dans cette loi, c'est qu'elle souligne que l'interruption volontaire de la grossesse n'est pas une méthode de contraception. Donc, il ne faut pas dire on est tombé enceinte, on ne prend pas de méthode, on tombe enceinte, on va avorter. Et cette loi souligne les avortements qui sont autorisés. C'est ce qu'on appelle les avortements thérapeutiques. Elle souligne aussi que ces avortements thérapeutiques ne peuvent pas avoir lieu n'importe où.
Est-ce que ce qui a fait débat au niveau de cette loi, c'était pas le fait, je pose la question comme ça pour savoir, c'était pas le fait que la femme devait avoir le droit de disposer de son corps, et c'était pas à ce niveau que peut-être que beaucoup, la question, les débats se sont posés.
Bon, il y a toujours eu ce genre de débat, mais il y a toujours aussi une loi qui est là pour recadrer ces débats aussi.
Alors le fait qu'on mentionne dans cette loi que l'avortement n'est pas un moyen de contraception, ce lien entre les contraceptions et l'avortement, pour vous, est-ce très important?
Oui, c'est très important. Parce que dans cette même loi, quand on va continuer, la loi dit qu'on peut offrir la contraception, les méthodes contraceptives à toutes les filles, quel que soit son âge. Donc déjà là, elle vient dire, on n'a pas d'excuse pour dire parce que j'ai cet âge, je n'ai pas droit à la contraception, donc je suis tombée enceinte, je peux avorter.
Donc du coup, on n'a pas d'excuse pour dire que j'ai avorté.
Que j'ai eu une grossesse non désirée.
Oui, et que j'ai fait un avortement clandestin.
Voilà. Non désiré, déjà, il y a une façon pour l'éviter.
D'accord. Ouais. Avez-vous des chiffres, des pratiques, des chiffres qui parlent de ces avortements? Est-ce que d'abord au Niger, on enregistre un nombre élevé d'avortements clandestins ou bien d'autres types d'avortements?
Malheureusement, oui, les avortements clandestins sont une réalité ici au Niger. Et il y a beaucoup de conséquences. Et le plus souvent, celles qu'on peut, on ne peut pas avoir des chiffres. Parce que celles qu'on arrive à voir, c'est les patientes pour qui ça n'a pas bien marché.
Et que se retrouvent à l'hôpital,
voilà.
Vous gérez,
exactement.
Vous gérez les conséquences.
Les conséquences, ouais. Exactement. Celles pour qui ça se passe bien, elles ne viennent pas. Donc, il y a des gens qui ne sont même pas des agents de la santé, qui ne sont pas des professionnels de la santé. Il y a des professionnels de la santé aussi qui le pratiquent clandestinement. Il y a des gens qui sont des tradipraticiens. Il y a des femmes spécialistes en ça. Il y a des médicaments aussi que les gens trouvent un peu partout, même des médicaments de la rue pour avorter. Donc, c'est un réseau qui est très large, qui est très difficile à maîtriser, vraiment. Donc, les avortements clandestins, ça a toujours existé. Et voilà, malheureusement, on enregistre beaucoup de conséquences dues à ces avortements. Avortement clandestin.
Et je vous laisse le temps de souffler. Docteur Idrissa Abdoulaye a également répondu à cette question, à savoir quels sont les différents types d'avortements au Niger. On l'écoute. Est-ce qu'on peut dire que les avortements, par exemple, spontanés dont vous parlez, dire qu'il y en a beaucoup?
Je n'ai pas les chiffres officiels, mais au niveau de la maternité Sagazobi, il faut dire les avortements, il y en a beaucoup. Environ 30% des patientes peuvent avoir des avortements spontanés. Ce qu'on appelle les avortements spontanés, ça peut être dû à beaucoup de choses, ou une défaillance du col, ou une infection urinaire, ou un simple palud, ou toute autre pathologie qui peut donner des fièvres et par conséquent provoquer des contractions utérines pour forcer, disons, au produit de conception de sortir.
Et ça, il y a des conséquences sur la santé de la mère?
Beaucoup de conséquences. La première conséquence pour la mère, c'est le risque d'hémorragie. Les avortements, ça donne beaucoup de saignements. Et si on y prend garde, s'il n'y a pas une bonne prise en charge, elle va se vider de son sang. Vous voyez, ça peut donc entraîner des morts, des décès maternels. L'autre conséquence, si un avortement est dû à une infection, donc l'infection va continuer et avoir des répercussions sur le devenir gynécologique de la patiente. Les autres types d'avortements, c'est ce que je suis en train de vous dire, les avortements provoqués, clandestinement. Ça aussi, il y en a beaucoup. Ce sont surtout les grossesses non désirées. Et la femme donc ne peut pas supporter la grossesse. Souvent, on a même l'habitude de trouver des tiges. Les femmes se font avorter en acceptant comme mettre des tiges dans leur appareil génital qui va provoquer des dégâts énormes, des ruptures utérines. Souvent, les conséquences, c'est que ça induit l'infection. Si la femme n'a pas beaucoup de chance, elle va rompre l'utérus et elle sera obligée d'aller opérer et même d'enlever l'utérus une fois pour toutes. Vous voyez? Donc elle a perdu non seulement son produit de conception et elle a perdu l'utérus et par conséquent, elle ne va jamais avoir d'enfant.
Alors ça, vous le dites parce que vous gérez les conséquences de ces avortements clandestins, bien sûr.
Tout à fait, ce sont des choses qu'on vit chaque jour. Parce que chaque jour, on a des cas comme ça. Parce que des femmes qui acceptent ces avortements provoqués, elles finissent toujours dans le milieu médical. Ce qu'elles ne veulent pas qu'on sache là, ça va se faire savoir parce que la famille va se mobiliser, on va l'hospitaliser et tout le monde saura. Et elle va sortir avec des conséquences énormes.
Alors, est-ce que vous avez des chiffres journaliers peut-être ou bien voilà une estimation?
Oui, bon, pas des chiffres journaliers, peut-être des chiffres environ une fois par semaine, on a un cas comme ça. Mais je pense que la sensibilisation a beaucoup marché parce qu'avant, il y en a beaucoup. Mais maintenant, de plus en plus, en tout cas, on en a de moins en moins. Ce que je vais vous dire, c'est que nous, en tant que professionnels de la santé, je vous informe que c'est, disons, les femmes qui acceptent les avortements provoqués connaissent mieux que nous les produits abortifs. Si vous racontez les décoctions ou les méthodes qu'elles utilisent pour faire avorter, nous, on se tient même par la tête.
Alors, donc, docteur Idrissa Abdoulaye de la maternité Gazobi, docteur Moussa Zangao, alors, je vous pose cette question. Vous venez d'entendre, donc, est-ce que les parents ou la société a un poids énorme dans cette pratique de l'avortement clandestin?
Oui, et quand on parlait tantôt des questions taboues, évidemment, les tabous renvoient au poids, aux pesanteurs socioculturelles qui s'exercent d'abord à partir de la famille, à partir de la communauté, communauté entendue là au sens un peu plus large. Si c'est dans un village, l'ensemble du village et environnement.
Et quelles sont les craintes de ces filles, de ces femmes qui avortent clandestinement?
Oui, souvent ce sont des filles qui ne sont pas dans un foyer, qui ne sont pas mariées et qu'elles contractent une grossesse hors mariage. C'est une honte pour la famille, c'est une honte également pour elles. Quand on découvre par la suite, il y a là, à un moment donné, la société commence de plus en plus à être tolérante. À un moment donné, lorsqu'une fille d'une famille tombe en grossesse, elle est sanctionnée souvent de manière sévère. Et souvent, elle est même chassée de la famille. C'est vrai, c'est pour des questions de moralité, pour des questions d'éthique, pour des questions, en tout cas d'honneur. Les gens n'acceptent pas qu'on dise que leur enfant et de mauvaises moralités, ça renvoie à la moralité des parents. Donc, ça fait partie des aspects qui font que la clandestinité est malheureusement observée. Cette interdiction peut-être renforce également ce comportement de clandestinité qui est observé au niveau de certaines jeunes filles, au niveau de certaines familles, parce que souvent, la fille, quand elle cherche à avorter.
Mais docteur Moussa Zangao, je crois que, docteur, vous rappelez ce que docteur Adama Tini de l'ONG Marie Stops a rappelé, c'est que les moyens de contraception sont aussi là. Aucune fille ou aucune femme ne pourra dire qu'elle n'a pas été suffisamment avertie et qu'elle est obligée d'aller faire un avortement clandestin. Vous soutenez, bien sûr, Adama Tini.
Ce qu'elle a dit, c'est juste les moyens de contraception. Il y en a, et ça fait longtemps que ça existe au Niger.
Mais il y a encore une loi, je vous rappelle aussi qu'elle a dit qu'il y a encore une loi qui renforce ça. Voilà.
Mais ce qu'il y a, combien de Nigériens ou des Nigériennes, surtout des jeunes, sont réellement informés de ce qu'il faut faire?
Alors pour vous, c'est une question de sensibilisation, d'information qui se pose, docteur Moussa Zangao.
C'est toujours insuffisant. C'est toujours insuffisant. C'est vrai, on en parle dans les écoles. C'est vrai, on en parle souvent dans la rue. Mais je crois qu'il faut... Ce n'est pas seulement en direction des jeunes qu'il faut faire cette sensibilisation. Il faut la faire aussi en direction des personnes âgées qui sont toujours réticentes parce qu'on considère que c'est un indicateur, expression de délinquance, expression de mauvaise moralité, parler de ces questions de contraception à ses enfants.
Alors,
l'éducation sexuelle, elle est encore mal vue dans de nombreuses familles nigériennes.
Alors, vous pensez que c'est travail de ces ONG, et nous avons la chance d'avoir Adama Tini de l'ONG Marie Stop. Je vous arrête pour faire rebondir Adama Tini. Alors, ce travail de sensibilisation, d'information, ce qui concerne les contraceptions,
oui, exactement,
n'est pas suffisant. Ce travail n'est pas suffisant. Voilà.
Je rejoins ce que Dr Moussa vient de dire. C'est surtout le manque d'information. Je pense qu'il y a beaucoup d'ONG qui travaillent là-dessus. Il y a le ministère aussi qui travaille beaucoup là-dessus.
Alors vous, qu'est-ce que vous faites concrètement?
On fait beaucoup de sensibilisation. Mais ici, à Niamey, et l'ONG Maristop, elle ne s'arrête pas à Niamey aussi.
Maradi,
et même Maradi, ce n'est pas dans les villes de Maradi seulement. Il y a des équipes mobiles qui tournent un peu partout, qui partent dans vraiment des zones reculées pour atteindre ces femmes qui désirent avoir une méthode de contraception.
Alors ça, c'était une parenthèse, c'est pas le débat n'est pas les contraceptions, mais c'était quand même important de le souligner. Oui. Alors les conséquences, nous sommes dans la deuxième partie, les conséquences sur la santé de la mère, docteur Idrissa l'a rappelé. Alors on trouve parfois des choses, vous avez entendu, pas la peine que je revienne là-dessus. Quelles sont les conséquences que vous avez eues à gérer sur le terrain?
Il y a beaucoup de conséquences, comme Dr Idrissa l'a dit. J'ai eu à travailler aussi à la maternité centrale. Les tiges, ça, c'est beaucoup de choses qu'on reçoit. Donc, ça commence par quoi? Par les hémorragies qu'on a du mal à maîtriser. Il y en a qui décèdent des suites d'hémorragies. Il y en a qu'on arrive à sauver en faisant des transfusions ou en prenant en charge, même si c'est par des médicaments. Et il y a les infections aussi. Les infections qui peuvent être pelviennes, qu'on peut traiter, mais qui peuvent être amenées à l'ablation de l'utérus. Carrément.
Comme l'a souligné Dr
Idrissa. Et il y a parfois, même l'ablation de l'utérus ne suffit pas à sauver ces femmes. Si on arrive même à sauver et qu'on laisse l'utérus, il y a des conséquences à long terme. C'est normal, c'est des conséquences qui vont agir surtout sur la stérilité de la femme. Prochainement, quand elle va essayer d'avoir des enfants, elle aura des difficultés parce que l'utérus a été abîmé. Les trompes ont été abîmées. Et donc, pour avoir des enfants prochainement, ça sera très difficile.
Alors, est-ce que ces avortements clandestins donc, provoquent ou bien augmentent la mortalité maternelle? Écoutons la réaction de Dr Idrissa Amadou.
Alors, docteur, est-ce que vous pouvez affirmer clairement que ces avortements provoqués augmentent la mortalité maternelle?
Ça nous le dit. C'est une réalité, parce que s'il n'y a pas une prise en charge très efficace, je vous jure que ça aboutit obligatoirement par un décès maternel. Ça augmente énormément la mortalité maternelle, ces avortements, surtout clandestins.
En termes de chiffres?
Bon, le taux, 10% le taux de mortalité maternelle liée aux avortements.
Alors, 10% le taux des avortements clandestins liés à la mortalité maternelle. Adama Tini de l'ONG Maristop, est-ce que vous avez peut-être les mêmes chiffres, d'autres chiffres qui mettent en exergue ou qui soulignent réellement ce taux de mortalité maternelle?
Je n'ai pas de chiffres. Il y a beaucoup de mortalité due aux avortements clandestins parce que les avortements clandestins se font surtout dans des conditions pas du tout septiques. Des conditions aseptiques qui conduisent forcément à des infections. Et en fonction du degré d'infection, il y en a qui décèdent avant même d'arriver au niveau des centres de santé, il y en a qui décèdent au niveau du centre de santé. Quel que soit ce qu'on va faire pour elles, elles arrivent trop tard, on ne peut pas les sauver.
Et tout de suite, nous écoutons un dernier son parce que nous sommes dans la troisième partie de cette émission et qui revient à trouver des solutions pour remédier à ces avortements clandestins. Alors, docteur Idrissa Amadou, de la maternité Gazobi a bien voulu répondre également à cette question.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les moyens de contraception peuvent être une des solutions à ces avortements clandestins?
Nous pensons qu'en tant que professionnels de santé, en tout cas la contraception est légalisée, le planning familial est légalisé au Niger pour l'espacement de naissance. Donc par conséquent, la contraception peut en tout cas être un palliatif aux grossesses non désirées, au-delà aux avortements, surtout clandestins et autres.
Alors, docteur Moussa Zangao, donc socio-anthropologue, là, nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir remédier, lutter, réduire ces avortements clandestins.
Oui, je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller en profondeur. C'est vrai, la sensibilisation, l'information, mais il faut que ça soit conduit, pas seulement par les professionnels de la santé, mais il faut que les hommes politiques apparaissent de manière visible sur ces questions, qu'ils prennent des positions réelles dans les meetings. Quand il s'agit de les dire publiquement, ils sont presque pour la plupart réticents. Il faut cet engagement, ce courage politique pour aborder ces questions parce que ces questions d'avortement, ces questions de manque d'engagement fait beaucoup de dégâts du côté de la maternité, du côté de
la mortalité,
de la mortalité maternelle.
Alors,
et même infantile, parce que ce n'est pas seulement les mères des enfants ici des grossesses indésirées. On peut le sauver si la société permettait de tolérer certaines choses.
Alors, Adama Tini de l'ONG Maristops, vous pensez aussi comme docteur Idrissa Abdoulaye de la maternité de Gazobi ou bien vous avez d'autres propositions à nous faire?
Mais ce que je vais rajouter, c'est qu'il y a une triste réalité ici au Niger. Nos jeunes sont très actifs sexuellement. Donc c'est une réalité qu'on essaie de cacher.
Oui.
Il y a les parents d'abord, il y a les agents de santé. Maintenant, une jeune fille célibataire qui n'est pas mariée, qui part dans un centre de santé pour prendre une méthode de contraception, elle sera sur place jugée, marginalisée. Et ça fait que les jeunes sont réticents à aller chercher ces méthodes. C'est surtout le jugement. Ces jeunes ont peur des jugements.
Des jugements.
On peut bien te donner ta méthode, mais la façon dont on va te regarder, dont on va te juger, ça te met mal à l'aise. Et les parents, il y a une fuite de responsabilité. Parfois, on éduque mal nos enfants. On sait très bien que nos enfants, ils rentrent comme ils veulent. On n'en parle pas. Et c'est quand elles se retrouvent enceintes qu'on cherche à les faire avorter.
Oui. Donc, les chercheurs en santé en ont aussi fait le cheval de bataille. C'est donc à ce sujet que nous avons interrogé. Rahilatou Soumana a interrogé donc Dr Aïssa Diarra.
Je m'appelle Aïssa Diarra. J'ai 51 ans. Je suis mariée et mère de trois enfants. Je suis médecin et socio-anthropologue. plus précisément anthropologue de la santé.
Quel est votre centre d'intérêt dans l'activité que vous menez?
Dans la recherche que je mène, donc je m'intéresse aux politiques publiques de santé et leur mise en œuvre au Niger, mais pas que, aussi dans la sous-région. Je m'intéresse aussi à l'organisation des soins maternels et aussi comment donc au niveau communautaire, les populations utilisent diverses stratégies pour accéder aux soins et dans les centres de santé.
Alors, l'accès des femmes aux soins fait partie de vos priorités, notamment la planification familiale. Pourquoi cet aspect de la santé?
Par rapport à l'accès à la planification familiale, même si dans les services de santé, les produits contraceptifs existent, il y a le fait que socialement, on considère qu'il y a certaines femmes qui ont droit à ces produits contraceptifs modernes, tandis que d'autres n'en ont pas droit. C'est par exemple donc les femmes dont les maris sont partis en migration. Ces femmes sont censées être sans vie sexuelle et donc du coup elles n'ont pas accès à la planification familiale. Et ensuite, on a aussi les jeunes filles qui aussi, selon les normes sociales, ne devraient pas accéder à la planification familiale parce que dans les normes, elles n'ont pas de vie sexuelle. Donc, du coup, on le constate bien qu'il y a énormément de grossesses non désirées. Parce que justement, ces jeunes filles n'utilisent pas la contraception.
Vous parlez de grossesses non désirées et on sait que souvent, ces grossesses non désirées conduisent aux avortements clandestins. Est-ce qu'il existe au Niger des chiffres pour évaluer l'ampleur de la pratique?
En fait, il n'y a pas une estimation fiable des avortements clandestins du fait de leur clandestinité, parce que c'est une pratique qui est illégale. C'est aussi un sujet tabou qui n'est pas donc porté en débat sur la place publique. Lors de l'étude que nous avons réalisée dans la région sanitaire de Niamey et puis dans le district sanitaire de Gaya, nous avons donc rencontré des cas d'avortements clandestins. La plupart de ces avortements se passent entre des mains non expertes et ce sont des avortements à risque, responsables de nombreux décès. Et la part des décès suite à des avortements à risque est quand même assez énorme dans le taux de mortalité maternelle.
Que dit la loi sur cette pratique, sur l'avortement? Est-ce qu'il y a des textes qui accompagnent ces jeunes filles?
Le cadre institutionnel n'intervient que lorsque l'avortement devient compliqué et donc lorsque la vie des femmes est en danger. Donc les soins après avortement donc interviennent à ce stade-là, mais il n'y a pas d'accompagnement dans les pratiques d'avortement parce que c'est illégal pour plusieurs raisons politiques, raisons religieuses, morales, etc.
Alors moi j'ai l'impression en écoutant le docteur Aïssa Diarra que c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit ici. Vous n'avez pas cette impression comme si elle était avec nous, c'est pas cette impression que vous avez, Adamatini?
Si. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties.
Je crois point par point, tout ce que vous avez dit, vous, Adama Tini de l'ONG Marie Stopes et le docteur Moussa Zangao. Moi, je l'ai retrouvé dans l'intervention de docteur Aïssa Diarra.
Exactement.
Docteur Moussa Zangao, nous sommes... Alors, on l'a perdu, c'est ça? Bon, d'accord. Nous allons revenir vers docteur Moussa Zangao. Pour l'instant, Adama Tini de l'ONG Marie Stopes.
Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que bon, on sait tout jeune qui est actif sexuellement, s'il n'a pas de méthode de contraception, sera victime d'une grossesse non désirée.
c'est de permettre à ces jeunes d'avoir accès à la contraception. On lui donne sa méthode de contraception.
Alors, vous positionnez donc sur la sensibilisation des agents de santé des parents.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Et donc, quand vous parlez de grossesse non désirée, vous faites allusion directement aux avortements clandestins.
Exactement, aux avortements clandestins.
Alors, docteur Moussa Zangao, fin
oui,
de cette émission.
La technologie a lâché, là.
Mais bon, c'est pas grave, mais vous êtes avec nous. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, voilà, parmi les solutions que vous avez proposées, nous avons noté ces solutions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Moi, j'ai mis un accent sur les cas, sur la position des hommes politiques. Ils sont porteurs des projets de société au niveau de leur structure, au niveau national, et il faut qu'ils soient très visibles sur ces questions de la santé et de reproduction. Vous continuez encore à tirer le Niger vers les bas, car la plupart des politiques de développement qui sont initiées au niveau de notre pays, c'est parce que sur les plans de la santé de la reproduction, nous manquons encore l'efficacité qu'il faut pour tirer les pays vers le haut.
Alors, nous retenons en tout cas que l'avortement clandestin au Niger, c'est une réalité. Les raisons, selon Dr Moussa Zangao, c'est le fait qu'il y ait des sujets tabous. Le fait de ne pas accepter la sexualité des jeunes, ça c'est un point de vue donné par Adama Tini de l'ONG Maristops. Nos invités ont suggéré donc de mettre plus en exergue les moyens de contraception. Docteur Moussa Zangao met l'accent sur la participation, l'implication et l'engagement des hommes politiques et des agents de santé. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, docteur Adama Tini de l'ONG Maristops. Merci, docteur Moussa Zangao. Merci aussi à docteur Idrissa Abdoulaye d'avoir bien voulu accepter de participer à cette émission. Chers auditeurs, prochain rendez-vous demain à partir de 17h. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions à message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54.
Affairage, 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 affairage. Affairage.
Fais tousser comme ça. J'espère que c'est pas cette nouvelle maladie affreuse que tu as contractée, ce coronavirus.
Tu vas chercher quoi là? Je suis juste enrhumée.
Et comment tu peux être sûre que c'est un rhume de la façon dont tu tousses là?
Mais enfin, c'est quoi ce Covid-19? C'est sans doute une de tes maladies que tu as vues dans les films d'horreur dont tu raffoles, n'est-ce pas?
Mais dans quel trou tu as mis ta tête toi? Tu ne sais même pas que le coronavirus est en train de tuer des milliers de personnes dans le monde, qu'il a même commencé à faire des ravages ici au Niger.
Subhanallah, mais alors c'est la fin du monde?
Hey, calme-toi. Sache qu'à cause de cette maladie, les autorités font beaucoup de sensibilisations télé et radio où on décrit un peu les symptômes et comment prévenir le Covid-19.
Toi-même, tu sais que je ne regarde pas la télé. Je ne regarde que mes séries.
Ma copine, sors un peu de tes séries et écoute les infos. C'est le conseil que je te donne en cette période. Je ne suis pas docteur, hein, mais il y a tellement d'annonces sur cette maladie que je peux te guider un peu.
Moi, je tousse seulement. Avec un écoulement nasal, c'est tout ce que j'ai. Tu sais, ce qui ressemble un peu à de l'eau, là.
Je vois, mais je te conseille de voir le service d'aide médicale d'urgence pour te situer. Tu n'auras même pas besoin de sortir de chez toi. Il faut appeler le 15 ou le 118. Eux vont t'orienter. Et si besoin est, ils vont faire le déplacement jusqu'à chez toi.
Jusqu'à chez moi? C'est vraiment sérieux, cette histoire. Mais je ne peux pas me le permettre.
Et pourquoi donc?
Je n'ai pas beaucoup d'argent pour prendre tout ça en charge.
Mais c'est totalement gratuit.
Vraiment?
Je te jure, toute personne qui doute de son état de santé ou qui a été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 peut appeler. Tiens, je t'explique un peu ce que disent les spots de sensibilisation du ministre de la Santé.
Ok, tu as toute mon attention, je t'écoute.
Les symptômes du nouveau coronavirus COVID-19 sont toux, fièvre et les difficultés respiratoires qui conduisent souvent à la mort.
Subhanallah, mais c'est tout ce que j'ai. Et comment cette maladie se transmet-elle? J'espère que ce n'est pas de l'air que nous respirons. Hein?
Pas du tout. Selon les médecins, il se transmet par contact physique direct avec des personnes ou objets contaminés à travers les gouttelettes de salive émises par la personne contaminée qui tousse.
Hey.
Mais pour éviter la propagation du COVID-19, il existe des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires.
Je t'écoute s'il te plaît, raconte.
Il est conseillé d'éviter les attroupements. Donc, il n'y a plus de balsa.
Mm-hmm.
Garde une distance d'au moins 1 mètre des autres. Là, tu es trop près de moi. Recule un peu, s'il te plaît. Éternuer ou tousser dans le creux de votre coude. Ou utiliser un mouchoir jetable, puis se laver les mains à l'eau et au savon.
À force de t'écouter, cette maladie me fait déjà peur, je te jure.
Il y a quoi avoir peur, wallahi. L'heure est grave. Rester chez soi et respecter ces mesures est la meilleure solution.
J'en parlerai en famille ce soir. Personne ne sortira d'ici.
Bonne réflexion, ma chérie. Vous pouvez sortir quand c'est vraiment nécessaire, en portant un masque, c'est-à-dire bavette.
Compte sur moi pour écouter désormais les sensibilisations. Je vais aussi informer mes voisins.
Mais n'oublie pas, ensemble, nous pouvons ralentir la propagation du COVID-19. D'ailleurs, je rentre chez moi, on ne se verra pas de sitôt.
Merci vraiment pour tout. Je t'appellerai pour te donner mon résultat.